Bonjour, je suis Olivier, bienvenue dans le podcast de 993. Aujourd'hui, je vais résumer et critiquer le livre « Bien cordialement, dans ta gueule » est un guide satirique consacré au code, aux routines et aux absurdités du travail de bureau contemporain. Écrit par Clovis Henriot, connu sur les réseaux sociaux sous le nom du « télétravailleur et ancien cadre bancaire », l'ouvrage s'appuie sur une observation familière des organisations tertiaires. Il ne propose pas une méthode de management ni une promesse de performance. Son objectif est plutôt de rendre lisible, par l'humour et le décalage, les mécanismes qui transforment souvent le travail en démonstration permanente d'activité, réunions évitables, courriels proliférants, indicateurs de performance, langage managérial et visioconférence composent le terrain de cette analyse. Le livre présente la vie d'entreprise comme un ensemble de rituels, de rôles et de règles implicites qu'il faut apprendre à repérer pour ne pas s'y perdre complètement. Sa fonction de guide de survie tient donc moins à des recettes toutes faites qu'à une invitation à nommer le bullshit, à distinguer l'agitation de l'utilité et à préserver une forme de lucidité collective. Je vais vous présenter les points clés de ce livre. Premièrement, distinguer le travail réel de la preuve permanente que l'on travaille. Le point de départ du livre est une opposition simple mais structurante. Certaines entreprises permettent de produire, tandis que d'autres poussent surtout chacun à manifester qu'il est occupé. Cette nuance éclaire une grande part de la satire. Lorsqu'un salarié doit multiplier les comptes rendus, répondre immédiatement à des messages peu importants, assister à des échanges sans décision ou rendre visible chaque étape de son activité. La démonstration peut finir par prendre le pas sur la tâche elle-même. Le livre vise ainsi moins le travail que les dispositifs qui l'entourent et qui peuvent l'absorber. Les KPI, les points de suivi et les sollicitations continues ne sont pas présentés comme intrinsèquement absurdes. Ils deviennent problématiques lorsqu'ils remplacent le jugement sur la qualité, l'utilité ou l'aboutissement d'une mission. Cette perspective est concrète pour les salariés de bureau, car elle met des mots sur un sentiment diffus de journée pleine mais peu productive. L'humour permet de reconnaître l'écart entre les objectifs officiellement affichés et l'expérience vécue. En soulignant cette confusion entre activité visible et contribution effective, l'ouvrage invite à observer où va réellement le temps de travail, sans prétendre que toute coordination ou toute mesure de performance serait inutile. Deuxièmement, déchiffrer la novlangue managériale pour retrouver le sens des échanges. La novlangue d'entreprise constitue un autre objet central. Le livre évoque ces formulations lisses, prudentes ou abstraites qui remplissent les messages professionnels sans toujours préciser une demande, une responsabilité ou une décision. Traduire les phrases creuses ne relève pas seulement de la moquerie lexicale. C'est une manière de remettre au premier plan les questions pratiques. Qui fait quoi? Pour quand? Avec quelle marge de décision? Et selon quels critères? Dans de nombreuses organisations, un vocabulaire de transformation, d'alignement, de synergie ou de dynamique collective peut créer l'impression d'un discours élaboré tout en laissant les enjeux opérationnels flous. La satire expose le coût de ce flou malentendu, réunions supplémentaires, validation en cascade et dilution de la responsabilité. Elle montre aussi que ce langage a une fonction sociale. Il permet parfois de signaler son appartenance à un collectif professionnel, de contourner un désaccord ou de donner une apparence maîtrisée à une situation incertaine. L'analyse ne suppose donc pas que les individus sont simplement naïfs ou mal intentionnés. Elle révèle plutôt comment une langue codée peut éloigner les équipes du réel. Le bénéfice intellectuel du livre est d'aider le lecteur à entendre ce qui manque dans un message professionnel, un fait, un choix, une échéance ou une action clairement formulée. Troisièmement, lire les réunions, les petits points et les courriels comme des rituels organisationnels, bien cordialement. Dans ta gueule, traite les outils ordinaires du bureau comme des rituels, plutôt que comme de simples moyens neutres de communication. Le petit point, la réunion récurrente ou le courriel envoyé à de nombreux destinataires peuvent répondre à un besoin de coordination, mais ils peuvent aussi devenir des gestes automatiques qui entretiennent le flux sans faire progresser le travail. Le livre insiste sur les réunions que des messages plus clairs auraient pu éviter, signe d'une inflation des interactions formelles. Cette inflation n'est pas seulement une perte de temps individuel, elle fragmente l'attention, retarde les décisions et installe l'idée que la présence dans les dispositifs collectifs vaut preuve d'implication. L'open space et la visioconférence renforcent cette dimension théâtrale. Le salarié est à la fois producteur, spectateur et interprète de son propre sérieux professionnel. En décrivant ces scènes familières, l'auteur fait ressortir les règles non écrites qui les gouvernent, telles que la nécessité de rester disponible, de paraître engagé ou de confirmer son accord, même lorsque l'échange n'apporte pas de contenu nouveau. L'intérêt de cette lecture est de ne pas réduire les irritants à de mauvaises habitudes personnelles. Ils s'inscrivent dans une organisation du temps et de la visibilité. Les repérer permet de mieux comprendre pourquoi l'agenda saturé peut coexister avec une impression persistante de stagnation. Quatrième, cartographier les castes et les règles implicites de la vie de bureau. Le livre se présente comme un travail de observation, de classement et de cartographie de la vie d'entreprise. Cette posture met l'accent sur les castes, les comportements récurrents et les règles implicites qui organisent les relations de bureau. Une entreprise ne fonctionne pas uniquement par son organigramme officiel, ses processus ou ses objectifs déclarés. Elle fonctionne aussi par des manières de prendre la parole, de se rendre visible, de protéger son périmètre, de faire circuler une information ou de contourner un problème. La valeur de la satire est de rendre ces mécanismes reconnaissables sans les transformer en portraits psychologiques définitifs. Les situations décrites renvoient à des rôles sociaux davantage qu'à des individus isolés. Cette approche aide à comprendre pourquoi certaines tensions semblent difficiles à résoudre. Elles peuvent provenir de normes tacites plutôt que d'une consigne explicite. Le cadre qui multiplie les demandes de suivi, le collectif qui évite une décision ou le salarié qui adapte son langage à l'auditoire répondent à des incitations propres à leur environnement. Le regard du télétravailleur conserve une part d'autodérision puisqu'il ne place pas l'observateur au-dessus du système. Il examine aussi sa propre inefficacité. Cette symétrie donne aux propos une tonalité moins accusatrice et plus analytique. Le lecteur est invité à situer ses propres réflexes dans cette cartographie, au lieu de considérer que le dysfonctionnement vient exclusivement des autres. En dernier lieu, faire de l'humour un outil de lucidité face à l'absurdité professionnelle. La spécificité de l'ouvrage réside dans son usage de l'humour comme instrument de diagnostic. La formule du titre condense un écart entre la politesse codifiée des échanges professionnels et la frustration qu'ils peuvent susciter. Cet écart est connu de nombreux salariés, mais il est habituellement maintenu hors des communications officielles. En le mettant au jour, le livre procure le double soulagement annoncé par sa présentation rire de situations répétitives et constater que leur caractère absurde est partagé. Ce mécanisme compte, car l'isolement renforce souvent le sentiment que les difficultés de bureau sont purement personnelles. La reconnaissance collective ne résout pas à elle seule une surcharge, une mauvaise organisation ou un conflit de priorité. Elle peut néanmoins rétablir une capacité de jugement en donnant une forme à ce qui semblait confus. La satire demeure tendre dans la mesure où elle ne se limite pas à ridiculiser les salariés ou les managers. Elle vise un système de signes, d'habitudes et de contraintes auxquels chacun participe à des degrés divers. Le ton permet donc d'aborder des sujets potentiellement pesants, comme la perte de sens, la surveillance par les indicateurs ou la dilution du temps, sans les convertir en manuels dramatiques de souffrance au travail. Le livre ne remplace pas des outils de négociation, de droit du travail ou de réorganisation. Il offre plutôt une ressource culturelle, une grille de reconnaissance qui aide à garder de la distance, y compris dans les environnements hybrides et les interactions en visio. En conclusion, ce livre s'adresse d'abord aux salariés, cadres et équipes des organisations tertiaires qui reconnaissent la prolifération des réunions, des messages, des indicateurs et des formules managériales dans leur quotidien. Il peut également intéresser les managers désireux de regarder les effets concrets de certains rituels de coordination, à condition de le lire comme une satire et non comme un réquisitoire dirigé contre une fonction particulière. Son bénéfice pratique est modeste, mais réel, il fournit un vocabulaire pour identifier les mécanismes de perte de temps, les demandes floues et la confusion entre visibilité et utilité. Son bénéfice intellectuel est plus large, il rappelle que les pratiques de travail sont aussi des conventions sociales, susceptibles d'être observées et discutées plutôt que subies comme des évidences. Par rapport aux ouvrages classiques de développement professionnel, qui prescrivent souvent des méthodes d'efficacité, de communication ou de leadership, bien cordialement, Dans ta gueule se distingue par son refus apparent de la posture experte. Il ne promet pas d'optimiser une carrière ni de réconcilier définitivement le lecteur avec son entreprise. Il privilégie une enquête humoristique sur les symptômes ordinaires de la bureaucratie contemporaine, nourrie par l'expérience de bureau et par le regard du télétravailleur. Cette combinaison d'autodérision, de reconnaissance collective et d'attention aux détails concrets fait sa singularité. C'est un livre pertinent pour prendre du recul sur le décor professionnel, sans confondre cette prise de recul avec une solution complète aux problèmes organisationnels. Si vous souhaitez soutenir Clovis Henriot, vous pouvez acheter le livre via le lien Amazon que j'ai fourni dans la description du podcast. Après avoir lu le livre, faites-moi savoir ce que vous en pensez et partagez vos réflexions. À bientôt.